Les mystères d'Isis seront chantés et joués sur scène à Manosque.
C'est un opéra très peu connu et pourtant qui est l'ombre un petit peu quelque part d'un opéra très célèbre, celui-là. Avec nous pour en parler, Sylviane Gentil. Bonjour Sylviane.
Oui, bonjour.
Vous êtes metteur en scène et en même temps choriste et c'est vous qui dirigez les chœurs de cet opéra. Les mystères d'Isis, tout compte fait, c'est quelque chose qu'on connaît bien.
Oui, en fait, je vous reprends sur l'intitulé. Je suis pas metteur en scène, je suis chanteuse et je me suis lancée dans la mise en scène de cet opéra après avoir monté déjà d'autres projets de ce type, mais je n'occupais pas cette fonction. Mais là, j'ai pris en charge ce travail pour la première fois. Alors, pour répondre à cette question,
les
mystères d'Isis, en fait, on appelle ça un pasticcio, c'est-à-dire que en 1801, lorsque le public français ne connaissait pas encore les opéras de Mozart, on pouvait pas présenter La Flûte enchantée parce que c'était un opéra en allemand et que le public n'était pas prêt à recevoir une œuvre dans la langue de Goethe. Et donc, il a fallu non seulement le traduire, mais il a fallu aussi l'adapter au goût de l'époque et aux voix de la troupe de ce qui était l'Opéra de Paris à l'époque, qui s'appelait pas comme ça, ça s'appelait le Théâtre de la Musique et des Arts. Et dans ce théâtre, il y avait une troupe permanente et il fallait que les rôles correspondent aux voix de cette troupe permanente. Donc l'arrangeur et le librettiste se sont attelés à la tâche pour faire rentrer dans toutes ces contraintes l'opéra La Flûte enchantée, ce qui donne... Qui lui est très célèbre, voilà.
Oui. Alors, ce qui était étonnant en plus avec les mystères d'Isis, c'est que cet opéra francisé, entre guillemets, n'a pas été donné depuis fort longtemps.
Et oui, parce que ça a donc fonctionné pendant 30 ans, puisque de 1801 à 1831, ça a fort bien marché, le public a fort bien répondu, et ça a tourné, enfin ça n'a pas tourné, mais c'est resté à l'affiche pendant 30 ans. Et puis ensuite, on a présenté La Flûte enchantée en allemand. Et depuis, ça n'a été que cette version que tout le monde connaît, de La Flûte enchantée en allemand, et on a complètement abandonné Les Mystères d'Isis, donc le manuscrit est resté totalement dans un placard inutilisé pendant très très longtemps.
Jusqu'au jour où vous l'avez déniché et vous l'avez sorti de l'oubli.
Voilà, alors c'est pas exactement nous qui l'avons déniché, en fait il y a eu déjà un chef d'orchestre Hervé Niquet qui dirige le concert spirituel, qui l'a déniché, qui l'a sorti et qui, avec l'aide d'un musicologue qui s'appelle Alexandre Dradvicki du Palazzo Bruzzan et qui est une fondation concernée par la musique romantique française, ont déterré ce manuscrit, l'ont numérisé et donc ce concert spirituel, cette formation orchestrale a donné une version à Pleyel en 2013, mais une version concert. C'était pas une version mise en scène. Donc ça a été donné une fois pour, je sais pas combien il y a de personnes à Pleyel, peut-être une jauge de 1000 spectateurs. Voilà, il y a seulement 1000 personnes depuis 1831 qui avaient pu entendre cette œuvre.
Mais pas qui n'ont pu la voir. Et depuis 1831, elle n'a pas été montée sur scène. Et c'est tout votre mérite d'avoir été, et vous l'avez affiché avec beaucoup de modestie. Non, je suis pas tout à fait metteur en scène. Mais enfin bon, pour avoir vu plusieurs de vos spectacles, je peux dire que c'est des spectacles de grande qualité, avec évidemment une recherche musicale et une technique musicale qui est sans faille. Et en même temps, toute une recherche scénographique qui est particulière et que vous avez mise en œuvre avec toute votre équipe de la rue du Planet,
ouais.
qui est une association, et c'est le sens de votre équipe aussi, pour mettre en place ce programme particulier qui sera donné à Manosque.
Ouais.
Vous l'avez déjà donné, ce programme ?
Alors, on l'a donné deux fois en version concert pour se roder à Lourmarin et à Vintabrin au mois de décembre. Mais ce n'était pas une version mise en scène. La version mise en scène, on la travaille depuis 2 ans. Donc on s'y
attelait. Costumes et décors, quoi.
Costumes, décors, lumière, voilà, tout ce qu'il faut pour être un vrai opéra.
Donc c'est un sacré challenge là, que vous avez pris encore un après Broadway, après Così fan tutte, c'est ça?
Non, on avait monté Orfeo Euridice, voilà. Didon est né encore avant.
Voilà. Avec toujours aussi un principe qui vous est cher, c'est le mélange entre des musiciens et des chanteurs professionnels, ouais, avec des amateurs. Et,
ouais.
Et franchement, sur scène, des fois, on voit pas la différence.
Hein. Alors, merci pour eux.
Et ça, c'est magnifique parce que ça secoue un petit peu les professionnels qui se disent « Ouh là là, il y a de la concurrence à côté. » Et puis à côté, il y a des gens qui sont ravis de chanter avec des gens dont c'est le métier.
Ouais.
Et le public est estomaqué parce qu'on lui dit « Ah ben non, le gars qui chantait, là, ben non, il est charcutier ou alors il est paysan. » Et il chante. Et il chantait dans son bain. Puis là, maintenant, il chante sur scène avec des chanteurs d'opéra. Voilà.
C'est vrai. Bon, d'une part, tout le monde n'arrive pas à vivre de son art hein, parce que c'est quand même très difficile de devenir intermittent du spectacle, même si c'est un statut spécifique à la France, il n'est pas facile de l'atteindre. Donc,
et c'est un statut qui est critiquable, vous le savez. Il ne faut pas prononcer des mots comme ça parce que ça m'énerve. Les intermittents du spectacle qui travaillent notamment dans le secteur de la télévision publique et dans le secteur de la radio publique, c'est inadmissible. Les intermittents du spectacle doivent travailler sur du spectacle vivant.
Ouais.
Fermons vite la parenthèse parce que sinon je vais... Ça va nous entraîner ailleurs.
On est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un très très bon niveau, qui ne sont pas professionnels dans les chanteurs, et il y en aura de plus en plus parce que ça devient difficile. Chez les musiciens également, ça existe aussi.
Comment vous faites pour diriger justement quelqu'un qui ne sait pas forcément lire la musique, qui ne sait pas ce que c'est qu'une harmonie, mais qui a envie de chanter et qui a le feu sacré en lui?
Alors, il faut que cette personne ait beaucoup plus de courage qu'une personne qui sait lire la musique, parce que ça va lui demander plus de travail. Il va falloir qu'elle apprenne par imprégnation, hein, donc c'est simplement un apprentissage d'oreille, donc c'est en rabâchant. Et c'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui sait lire la musique. Qui n'empêche pas, évidemment, que pour un opéra, il faut savoir tout par cœur, puisqu'on n'a pas de partition devant nous, donc on doit effectivement apprendre tout par cœur, les professionnels comme les amateurs. Mais pour les amateurs qui ne savent pas lire la musique, c'est vrai que c'est un gros travail, c'est un énorme travail.
Et
donc, ils ont du courage.
Oui, et puis c'est un travail aussi pour la personne qui gère ça, et en l'occurrence, c'est vous dans cette opération. Parlons de cet opéra, justement, que vous allez présenter sur scène. C'est samedi prochain à Manosque.
Alors, c'est 13 et 14 mai, donc vendredi soir et samedi soir, à Jean-le-Bleu, à Manosque.
Et il y a quelques petits vénards qui pourront le voir un petit peu avant. Ce sont les écoliers de Manosque.
Exact, oui. On va recevoir des classes de collège et des classes de CM1 et CM2, puisque nous serons pendant une semaine, enfin toute la semaine qui précède, en résidence au Théâtre Jean Le Bleu, pour donc faire cette création et en même temps des séances scolaires qui permettront de sensibiliser les jeunes et les écoliers à l'opéra, ce dont ils ont relativement peu souvent l'occasion.
Oui, c'est peu de le dire. Et c'est vraiment une bonne opération parce qu'effectivement, ça leur permet de voir un grand spectacle sur une scène qu'ils connaissent. Plus ou moins, la scène du théâtre Jean Le Bleu à Manosque. Et vous, ça vous permet aussi d'expliquer ce qu'est un opéra, ce qu'est la magie de la scène. C'est une fiction et c'est aussi une manière d'orchestrer, c'est le cas de le dire, la vie quotidienne ou la vie rêvée des gens et d'expliquer tout ça à des jeunes.
Parce que l'opéra, en fait, c'est un art très, très complet. Et il y a énormément de métiers qui s'y rattachent. Et on avait envie de sensibiliser les enfants par ce biais-là. C'est-à-dire, bien sûr, il y a la musique, il y a le chant, ça reste la première chose. Mais autour, il y a des tas de métiers qui travaillent, comme costumier, maquilleur, décorateur,
machiniste,
éclairagiste. C'est infini, scénographe. On n'imagine pas toutes les petites mains qui participent à la fabrication d'un spectacle comme ça. C'est
et
énorme.
Des petites mains, vous en avez dans votre équipe, on va en parler. On va commencer par les musiciens, si vous voulez bien.
Ouais.
C'est un ensemble qui va jouer en direct, en plus.
Absolument. Donc, il y a 7 musiciens qui sont sous la direction de Ludovic Amadeus Selmi. Ça ne s'invente pas, c'est son nom. Hein.
C'est son vrai prénom.
C'est son vrai prénom.
Ça, alors.
Et c'est un musicien, enfin, je tiens vraiment à lui donner un coup de chapeau parce qu'il est en même temps extrêmement musicien. C'est vraiment quelqu'un qui a ça jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. En plus, il adore et il a beaucoup d'expérience dans l'accompagnement des chanteurs. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, fusionnel avec le chanteur. En même temps, il tient son orchestre de main de maître. Et en plus, humainement, c'est quelqu'un de génial et de délicieux. Donc,
il s'est bien intégré à votre équipe,
absolument.
Sans problème.
Ah ouais, il apporte énormément. Alors, c'est vrai qu'aussi, l'opéra, c'est quand même d'abord de la musique. C'est un spectacle, mais c'est d'abord de la musique. Donc la première chose, c'est que la musique soit belle et soit de qualité, que les voix soient belles, que voilà, que ça soit réussi déjà à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose.
Avec quels instruments qui vont être utilisés?
Alors il y a un quatuor à cordes avec deux violons, un alto et un violoncelle. Il y aura une contrebasse, une flûte clarinette, c'est la même personne qui joue les deux, et un piano forte, qui sera tenu par Ludovic. Il tient la baguette et le piano forte. Voilà.
Donc ça devrait déjà rouler au niveau musique.
Ouais.
Et puis vous avez des chanteurs. Alors c'est pareil au niveau des chanteurs. Enfin, c'est pas pareil parce que là, ce sont tous des musiciens professionnels, je suppose.
Ouais.
Parmi les chanteurs, vous avez une équipe professionnelle et puis vous avez toute votre équipe derrière qui est plutôt bénévole et en même temps qui pulse. Hein.
Voilà, alors dans cet opéra, ce qui était intéressant, c'est que il y a 6 rôles principaux qui sont des rôles qui peuvent difficilement être tenus par des amateurs parce que ça nécessite quand même d'avoir du métier, de la scène. Et puis il y a plein de rôles qu'on appelle des rôles secondaires qui sont importants quand même, qui sont des occasions de mettre en valeur des chanteurs amateurs par exemple débutants ou même un petit peu avancés mais qui ne sont pas professionnels de la voix. Et ça m'a permis de distribuer dans cette troupe de chœurs, de choristes amateurs, tous les rôles secondaires. Et il y en a pas mal. Donc c'était aussi, dans le choix de l'œuvre, ça a été déterminant.
Il y a un côté les solistes et de l'autre côté les choristes.
Oui, tout à fait. Donc le chœur amateur, c'est à peu près 30 personnes. Donc ça fait du monde. Ce chœur a un bon niveau, en fait. Ils travaillent beaucoup, on leur demande beaucoup aussi. Hein, ils sont très très sollicités parce qu'ils participent pas seulement. Ils font pas que chanter. Vous verrez, ils font beaucoup de choses.
Je sais que vous étiez arrivé à faire danser des chanteurs et professionnels, ce qui était une prouesse déjà.
Voilà,
parce que
ouais.
Généralement dans ces métiers, tout est cloisonné, toi tu fais de la musique, toi tu fais du chant, toi tu fais de la danse et puis bon,
En France, mais
en France, oui, tout
voilà,
à fait.
Ça c'est un petit défaut qu'on est en train de redresser quand même.
C'est bien, c'est bien.
Les artistes ont tendance à se former tous azimuts maintenant.
Oui, c'est une bonne chose et pas uniquement dans la variété, aussi dans les musiques diverses.
Oui, oui.
Quoi.
Et donc, à l'opéra, on le voit aussi. Hein. Les chanteurs sont de plus en plus mobiles, ils sont de plus en plus comédiens, ils ont des formations plus complètes et plus solides.
Parlons, Sylviane Gentil, si vous voulez bien, des décors et puis des personnes qui vous ont aidé à faire les costumes notamment. Et là, je sais qu'il y a des bénévoles de grande qualité qui ont été à vos côtés.
Tout à fait. Alors pour les décors, donc on a fait. La situation, c'est l'Égypte antique. Alors, lorsque ça a été monté, en 1801, il y avait un décor monumental avec des sphinx, des escaliers, enfin, des choses impressionnantes. Il est bien compliqué pour nous qui n'avons pas de hangar, de local.
Oui, c'est cher, voilà, les sphinx.
Ça coûte cher, un sphinx, même en carton. Donc on a pris une autre option, c'est de travailler avec quelque chose d'un peu plus abstrait. Ce sont des blocs de polystyrène de forme oblongue et avec de section carrée et que l'on dispose selon les scènes de différentes manières. Donc parfois ça fait penser à des ruines d'un temple, d'autrefois, enfin vous verrez, je vous dis pas tout, vous aurez la surprise. Et ces blocs sont bougés sur scène au fur et à mesure des scènes et des tableaux par les choristes justement. Donc ça fait que non seulement ils doivent chanter, mais ils doivent aussi déménager très souvent tout ce qui se passe sur scène.
Quand je disais que vous présentiez votre travail de metteur en scène avec beaucoup de modestie, là on se rend compte qu'effectivement il y a un travail qui a été fait sur la scénographie qui est importante, aussi bien pour lier la présence des choristes sur scène et évidemment un décor qui est modulable. D'habitude on fait le noir et puis hop, on a des machinistes qui viennent vite changer de décor, etc. Non, là, au contraire, on est dans quelque chose de beaucoup plus souple et en même temps de simple. Ouais, ça, tout compte fait, c'est simple à réaliser.
Et ça se passe à vue, en fait. Ouais, c'est une manipulation à vue. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à régler. Ça demande un énorme travail. Mais c'est plus pour le spectateur. Il participe aussi au changement. Il voit la scène évoluer. Il voit les choses
cette
changer.
Colonne est devenue un mur,
voilà.
Quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ça permet aussi des jeux de lumière intéressants. Voilà. Et vous m'avez posé une question sur les costumes aussi. Je pense que c'est important d'en parler. Donc, ils ont, alors, on a eu la chance, cette année, d'avoir dans notre troupe une personne qui s'appelle Nadine Laporte-Monteil, qui est une, alors, elle est à la fois chanteuse, décoratrice professionnelle. Elle a des compétences aussi en costumes. Elle a fabriqué énormément de costumes. Elle a un stock de costumes chez elle très impressionnant. C'est surtout quelqu'un qui a des idées, énormément d'idées, et qui réalise, et qui sait réaliser ses idées en plus, les mettre en œuvre. Donc, elle nous a proposé à un moment donné de prendre en charge les costumes du spectacle, peut-être sans se rendre compte de l'énormité de la tâche, parce que c'est assez énorme, et dans cette œuvre, le cœur de 30 personnes se change 3 fois. Donc, vous imaginez le nombre de costumes en plus.
Ça fait 90.
Voilà, en plus, il y a les solistes. Enfin, bon, c'est, oh là là. C'est monumental.
Les musiciens sont costumés ?
Non, les musiciens seront peut-être... Enfin, on ne sait pas encore. On va voir. Peut-être.
D'accord.
Peut-être, mais peut-être pas.
Bon, ça fait une centaine de costumes, quoi.
Ouais, voilà. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Et c'est énorme. Mais elle fait ça avec un tel talent. Et elle est très rapide quand elle travaille. Et elle, c'est surtout qu'elle a des idées. Il faut presque trier dans tout ce que son cerveau produit, tellement c'est vif et c'est incroyable. Quoi.
C'est bien, les créatifs. C'est parfait.
Voilà,
il y a une autre créative aussi dans votre équipe, c'est la chorégraphe, Léa Favre.
Ouais. Alors Léa, ouais. C'est vraiment une personne aussi qui a beaucoup de talent, qui est adorable, qui a un charme fou. Et c'est marrant parce que quand elle parle aussitôt, elle dirige toute la partie chorégraphique et gestuelle du chœur en particulier. Et quand elle se met à parler ou qu'elle se met à montrer un mouvement, tout le monde est complètement scotché parce qu'elle a un charisme, elle a quelque chose, elle rayonne quoi. Et je pense que vous le savez, elle a fait beaucoup de choses en danse indienne. Elle s'est formée en Inde avec énormément de sérieux. Et maintenant, elle est très compétente en danse indienne et elle connaît très bien les mudras, qui sont ces gestes qui symbolisent des mots, des expressions, donc les statues ou les danseurs. On le voit dans les statues, mais on le voit aussi chez les danseurs indiens. Chaque fois qu'ils ont un geste, ça veut dire quelque chose. Ça peut vouloir dire soumission ou Dieu. Ou préparation. Donc, je lui ai demandé de venir avec ces gestes-là faire bouger un petit peu le cœur qui ne chantera pas statique, chantera en bougeant.
Et qui déménagera aussi sur scène le décor.
En déménageant le décor. Voilà, c'est rien du tout.
C'est plutôt sympathique, c'est une bonne chose. Sylviane, on rappelle la date, c'est le 13 et 14 mai pour les soirées. Il y a aussi une part importante de votre association, la rue du Planet, c'est que vous faites appel au financement participatif pour vous soutenir.
Tout à fait. Il y a un site qui, sur Eloasso, donc qui est bien connu dans le crowdfunding. Il y a un site rue du Planet, il y a une page rue du Planet où on peut effectivement déposer des dons pour nous aider à financer ce spectacle. Car en fait, ce qui coûte cher, c'est bien sûr les costumes, les décors, toutes ces choses-là, mais c'est surtout les salaires de tous les professionnels qui sont là et qu'il faut payer, bien sûr, ce qui est normal. Hein.
Et ça vaut le coup quand on voit vos spectacles et la qualité de vos spectacles. Donc, ce sera le cas, très certainement, les 13 et 14 mai, les Mystères d'Isis. Donc, c'est une adaptation, comment vous dites, pasticcio?
Pasticcio.
Pasticcio. De La Flûte Enchantée, bien sûr. C'est une production rue du Planet, avec le chœur et les solistes de l'opéra Dans ma rue. Et c'est à Manosque que ça va se passer. Évidemment, il y a une billetterie quelque part. On peut se renseigner.
Oui, on peut avec l'office du tourisme de Manosque. Donc, je donne le numéro si vous voulez.
Bien sûr.
C'est le 04 92 72 16 00. Ou bien, vous pouvez aussi par mail à billetterie@rueduplanet.fr. Rue du Planet, tout attaché, hein, PLANET.
Merci Sylviane Gentil, bonne Merci. Continuation et puis bravo d'avance. Je connais la qualité de vos spectacles, donc je peux me permettre de le dire. Et puis un salut amical à tous les membres de votre troupe.
Ça sera fait, merci
à
beaucoup.
Bientôt.
À bientôt.
Sensibles à nos peines, laissez-nous la liberté. Non, 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 c'est pas pour la beauté que sont faites ces chaînes, laissez-nous la liberté.